Nous sommes en compagnie de Sylvette Godichon, qui est attachée de conservation au musée de la piscine à Roubaix et commissaire de conversation anglaise, le groupe de Bloomsbury. Cette exposition, consacrée aux artistes et aux intellectuels anglais, parmi lesquels on comptait au début du XXe siècle Virginia Woolf, Vanessa Bell, Roger Fry, mais aussi John Maynard Keynes, est la première du genre en France. Elle ouvrira ses portes au musée de la piscine à Roubaix le 27 novembre 2009 et fermera le 10 février 2010. Alors Sylvette Godichon, pourquoi cette envie de conversation anglaise à la piscine ?
Alors c'est une conversation qu'on poursuit depuis maintenant plusieurs années entre les arts appliqués et les beaux-arts. Alors on a fait Picasso et la céramique, Chagall et la céramique, et là on aborde les anglo-saxons qui eux ont depuis toujours aucun problème entre les beaux-arts et les arts appliqués. Et il n'y a pas d'art majeur et d'art mineur pour les anglo-saxons, alors que pour les latins, il y en a beaucoup. Et là, c'était vraiment... Alors, on commence un peu à l'envers. On aurait pu commencer par William Morris, qui est le chantre de l'art and craft. Bon, on est peut-être qu'on part à rebours, mais c'était intéressant d'avoir cette conversation-là. Et conversation, c'est aussi à plusieurs niveaux. C'est aussi comment ces artistes anglais ont conversé avec les artistes français, ou disons continentaux, à partir de 1910, et la première fois qu'ils ont vu un Matisse ou un Picasso à Londres.
C'est vrai que ça a dû leur faire un choc.
Oui.
Sur quel concept s'est fondée l'identité de ce groupe ?
Alors, c'est quelque chose qui est aussi très exotique pour les Français. Ils sont tous issus de la très haute bourgeoisie anglaise ou de l'aristocratie anglaise. Les garçons étaient tous étudiants à Cambridge, donc tous appartenaient à des clubs d'étudiants. Ça, c'est totalement inconnu en France. Un club surtout qui s'appelait les Apostoles. Ils étaient 12 hein, dans le groupe au départ et toujours, puisqu'ils sont restés amis jusqu'à la fin. Donc les garçons du groupe étaient étudiants à Cambridge et il y avait deux femmes très importantes, Virginia Woolf et Vanessa Bell, qui étaient donc deux sœurs et qui ont cristallisé autour d'elles ce groupe qui était un groupe d'intellectuels, de peintres, de musiciens, d'architectes, d'écrivains.
Et même d'économistes.
Et même d'économistes, puisque le plus, avec Virginia Woolf, le plus connu est John Maynard Keynes.
Alors l'acte de naissance du groupe de Bloomsbury, c'est Cambridge ou c'est après ?
Alors l'acte de naissance, c'est 1905. Eux ne se sont jamais appelés groupe de Bloomsbury.
Oui, c'est ça que je voulais savoir.
Leurs détracteurs qui les appelaient le groupe de Bloomsbury. Si on fait des recherches, et la dernière qui est survivante du groupe de Bloomsbury, qui est la fille de Vanessa et de Duncan Grant, les deux peintres du groupe, qui a 91 ans et qui a écrit un texte absolument magnifique sur sa perception du groupe, le date de 1905 au déménagement des deux sœurs Stephen de High Kensington vers Bloomsbury, le quartier bohème de Londres, et le termine en 1937 quand le fils de Vanessa meurt à la guerre d'Espagne. Et la fondation vraiment, c'est 1910, la première exposition post-impressionniste à Londres.
Et donc ils ne s'appelaient pas eux-mêmes ? Ils ne s'étaient pas baptisés.
Ils ne se sont jamais appelés le groupe de Bloomsbury. Ça les faisait, suivant les jours et suivant les mémoires des journaux de Virginia, soit rire, soit ça les mettait dans une colère profonde. Mais ils avaient le sentiment d'appartenir à un groupe. Et Virginia dit un moment dans son journal une phrase qui est très très importante. Elle dit « nous avions tous du génie, nous réussissions parce que nous étions un groupe ». Et ça, c'est aussi très très important pour eux, cette idée de groupe. Ils ont vécu dans une maison quasiment...
Oui, c'est déjà communautaire, c'est déjà hippie
C'est totalement communautaire, totalement hippie. En ayant quand même des règles, ils étaient victoriens, malgré tout.
Oui, mais enfin, ils voulaient les mettre à bas, ces règles victoriennes.
Ils les ont mises à bas, en tout cas dans leur façon de vivre. Ils n'ont pas voulu changer le monde, hein. C'était pas du tout leur but. Mais ils ont cassé tous les codes victoriens qui pouvaient exister. Ils ont effectivement vécu en communauté dans une maison qui existe encore à côté de Brighton, qui est une maison absolument magnifique, qui est un manifeste de leur art, où ils vivaient à peu près tous, en tout cas les week-ends, tout le monde descendait dans cette maison. Voilà, et ils ont eu une. Ils ne se sont jamais disputés.
Ah, ça, c'est étonnant.
C'est très étonnant. ils ont tous été célèbres. Ils n'ont jamais fait d'infidélité, en tout cas intellectuellement, à leur cause du départ, et ça c'est aussi très très important pour la fondation de ce groupe.
Alors les fameuses soirées du jeudi à Londres, ça se passait comment ?
Alors le jeudi, les deux sœurs Stephens, qui avaient décidé très jeune, l'une de devenir écrivain et l'autre de devenir peintre, et qui étaient très dépitées de ne pas pouvoir aller à Oxford, Cambridge, alors qu'elles étaient certainement beaucoup plus brillantes que leurs frères.
Et elles ne pouvaient pas y aller parce que les filles n'y allaient pas.
Alors les filles commençaient à pouvoir y aller, mais elles avaient un père qui était un historien très célèbre et très rigoriste, qui leur avait ouvert la bibliothèque de la maison familiale, mais qui refusait que les filles aillent à Cambridge. Donc elles ont toute leur vie vraiment regretté cela. Et donc le jeudi soir, les deux frères, Toby et Adrian, qui étaient eux à Cambridge, amenaient leurs amis, qui étaient où elles faisaient des petits gâteaux et elles préparaient du whisky et du chocolat. Visiblement, ils ne venaient pas pour les gâteaux ou pour le whisky, ils venaient parce qu'elles étaient très intelligentes et que c'était la première fois qu'ils rencontraient des jeunes filles sans chaperon qui osaient parler. Duncan dit qu'elles osaient parler, c'était rarissime. Et en plus, ce qu'elles disaient était intelligent, ce qui était encore plus rarissime visiblement pour ces garçons. Les soirées du jeudi ont été fondateurs et ont créé les liens très très forts entre tous ces membres. Et puis il y a aussi l'anecdote de ce canular de potache d'étudiants en 1910, où ils se déguisent tous en mamamouchi et ils envahissent le yacht de la reine mère. En se faisant passer pour des émissaires d'un vague roi oriental. Et ça a été un scandale absolument épouvantable. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à parler d'eux.
Alors, quand vous dites qu'ils ne voulaient pas changer le monde, en tout cas, ils voulaient changer le leur de monde.
Ah, le leur, oui, totalement. C'était vraiment... Les règles n'étaient pas les mêmes pour eux que pour les autres. Par exemple, ils étaient tous pacifistes, antimilitaristes. Mm-hmm. Donc, et en Angleterre, ce qui n'existe pas en France, hein, je ne pense pas, on a le droit, même pendant la guerre, d'être objecteur de conscience et pacifiste, à condition de remplacer un homme qui est parti à la guerre. Vous pouvez imaginer ces intellectuels, ces peintres, ces écrivains partir dans les champs pour cultiver la terre. Ils auraient pu accepter la guerre. Vu leur position sociale, ils n'auraient pas été très loin, hein, ils n'auraient pas craint grand-chose. Mais c'était vraiment important pour eux d'avoir ce manifeste anti-militariste très très fort.
Alors on a parlé tout à l'heure de l'exposition organisée par Roger Fry qui a fait découvrir l'art moderne aux Anglais. Comment les Anglais ont intégré les courants artistiques européens au début du XXe siècle ?
Alors ça a été, je pense, vraiment, d'après tout ce qu'on peut lire... Alors le public a hurlé au scandale, il y a des écrits... Alors en plus c'était des peintres français... Pour la plupart, donc il y avait un sentiment anti-français très très fort, donc ça en a rajouté. Mais par contre, ça a été un éblouissement pour vraiment tous les jeunes peintres qui ne faisaient pas forcément partie du groupe, hein, ont été totalement mais bouleversés. Je pense que Cézanne a été celui qui a le plus bouleversé ces jeunes peintres. Donc il y a eu et ce qui est très étonnant, c'est que 1910, c'est la première exposition post-impressionniste où il y a 250 œuvres. C'est Manet et les post-impressionnistes, hein, parce que pour Roger Fry, Manet était vraiment le maître des post-impressionnistes. Et c'est donc des Picasso, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Matisse, enfin des peintres extraordinaires, pour même en Europe, hein, et qu'il réunit dans ces Grafton Gallery. Et en deux ans après, la deuxième exposition post-impressionniste, où là, on intègre les peintres anglais. C'est-à-dire qu'en deux ans, il y a une telle révolution, un tel bouleversement dans la façon de peindre que ces jeunes Anglais se précipitent pour exposer à côté des grands maîtres européens.
Alors, dans ce groupe de Bloomsbury, si on devait faire émerger des figures marquantes, à part Virginia Woolf et John Maynard Keynes, un écrivain et un économiste, est-ce qu'il y en a d'autres
Bien sûr, il y a Vanessa Bell, donc la sœur de Virginia, qui est un peintre absolument magnifique, vraiment magnifique. Je pense que les trois peintres ont des personnalités très fortes et très différentes. Roger Fry, le plus âgé de la bande, qui était historien d'art, conservateur au Met à New York, Et qui lui est le théoricien, vraiment, qui est un peintre, qui a une passion pour Cézanne, mais qui n'a pas la production qu'ont Vanessa et Duncan Grant. Donc là, ces deux peintres-là sont absolument... Alors, très connus en Angleterre, très connus aux États-Unis, absolument méconnus en France.
Bon, bah, ça va être l'occasion, en tout cas.
J'espère.
Alors, de quels documents dispose-t-on pour étudier ce groupe ?
Depuis quasiment 1905, ce sont des insectes. Ils ont été en permanence étudiés. Ils sont toujours étudiés. Donc
en France, par contre.
Il y a des spécialistes maintenant. Oui. Il y a justement à qui on a demandé des participations au catalogue. Donc là, il y a vraiment toutes les réflexions autour de ce groupe qu'on a essayé de faire émerger dans ce catalogue.
Alors, le musée de la piscine a acheté des œuvres pour cette exposition. Est-ce que c'est habituel ou exceptionnel ?
Non, mais on a acheté quatre œuvres. Trois qui sont vraiment en art appliqué, puisque ça, c'est vraiment notre politique. Et on continue à travailler vraiment à creuser ce sillon des arts appliqués qui est très important pour nous. Donc, on a acheté un coffre de Roger Fry. On a acheté une assiette de Duncan Grant et un tissu de Vanessa Bell. Et puis, un portfolio avec des bois gravés de tous les artistes qui ont travaillé à Omega Workshop, qui était une émanation de ce groupe où il y avait des artistes travaillés sur les arts appliqués, vraiment. C'est pas habituel, mais on trouvait que c'était important qu'il y ait une empreinte forte qui reste après cette exposition.
Alors, que va voir le visiteur de cette exposition à la piscine à Roubaix ?
Alors, il y aura 138 œuvres. Donc c'est une exposition assez importante en volume. D'abord, on rentrera par la salle 1910-1912. Ça a été compliqué de retrouver les œuvres exposées dans ces deux expositions, puisque les titres étaient un peu fantaisistes. Et c'est pas
donc vous avez reconstitué l'exposition de Roger Fry.
On a reconstitué vraiment
en minuscule.
En minuscule, oui, en tout petit. On a mis les artistes. Donc il y aura trois Picasso, trois Cézanne, trois Matisse, un Van Gogh, un Gauguin. Bon, c'est quand même pas mal. Mm-hmm. Et l'affiche originale de l'exposition. Donc on rentre par cette partie-là pour vraiment bien comprendre comment ils se sont imprégnés. Et puis ensuite, on va voir tout leur travail pictural, c'est-à-dire les portraits, parce qu'ils ont passé leur temps à se portraiturer, à se regarder, à s'observer, à se peindre eux-mêmes,
ils n'étaient pas un peu nombrilistes ?
C'était totalement nombriliste. Totalement. Mais c'est ça qui est fascinant aussi. Et puis, leur chef-d'œuvre, c'est-à-dire vraiment, quand ils digèrent Matisse, et quand ils digèrent Cézanne, et quand ils digèrent Picasso, le rendu est vraiment magnifique. Et puis, évidemment, toute la partie art appliqué. Donc les objets qu'ils ont créés pour eux-mêmes et qui sortent pour la première fois de la maison de Charleston. C'est la première fois que le Trust accepte de faire sortir des objets de cette maison. Et puis tous les projets qu'ils ont eus pour Omega Workshop, les livres évidemment illustrés, puisque Virginia et son mari Léonard avaient une maison d'édition qui s'appelait Hogarth Press.
Qui existe toujours.
Qui existe toujours. Où ils ont édité pour la première fois Freud, les traductions de Freud, Lorca... Gertrude Stein, énormément, mais il faisait illustrer par les peintres du groupe. Donc il y aura des livres de cette époque.
Alors si vous deviez choisir une seule pièce, si vous deviez en garder une d'ailleurs, vous prendriez laquelle ?
C'est un portrait de Vanessa par Duncan Grant, qui est le portrait le plus post-impressionniste, je pense, de cette exposition. Où il y a à la fois un abandon et une maîtrise, parce qu'on se demande si c'est pas elle qui a guidé la main. Enfin, c'est cette espèce d'échange qu'ils avaient constamment vivant, deux peintres qui vivaient ensemble et qui peignaient le même sujet, qui se peignaient eux-mêmes. Et là, je trouve que c'est un miroir, c'est un autoportrait déguisé, c'est absolument magnifique.
Eh bien, Sylvette Godichon, merci. On se retrouve donc à la piscine à Roubaix pour cette exposition sur le groupe de Bloomsbury. Et ça commence
le 21 novembre.
Et ça dure jusqu'en 2010, alors on a un petit peu le temps d'y aller.